CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Dans le mag du vendredi, on récapitule les actualités de la semaine.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là.
Le récap du lundi.
On va parler de raclette, de fondue, de quoi d'autre encore, de tartiflette, enfin voilà, de tout ce qui nous réchauffe. Pas
eh
vrai?
Eh bien non.
Mais comment
justement,
non. Ah, on joue aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué.
Non, pas du tout non
on
plus.
Joue pas.
Je vais vous parler d'un sujet pas très rigolo.
Ah.
Je veux parler de la graisse abdominale et notamment chez la femme.
Ah.
D'accord,
bon.
Donc voilà, donc, vous voyez, c'est moins rigolo que la raclette.
Bah, oui.
Cela dit, les deux peuvent être un petit peu liés parfois. Non, la graisse abdominale chez la femme, c'est quand même quelque chose de sérieux. Chez l'homme aussi, hein, d'ailleurs, vous me direz. Ben, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la graisse dans le bas du corps, dans les jambes, sur les hanches, va avoir effectivement des répercussions, mais plutôt mécaniques. Hein, d'accord. Tandis qu'au niveau de l'abdomen, il y a quand même les organes. Donc effectivement, on comprend que les répercussions sur la santé vont pouvoir être un petit peu plus importantes. D'accord. C'est pour ça que j'avais envie de m'arrêter un petit peu sur cette histoire de graisse abdominale et dire que on s'est aperçu, on sait tout du moins, que cela peut être dû à un dérèglement hormonal en fait. Hein, donc là effectivement c'est pas neutre, ça veut dire ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir parfois des femmes qui vont être assez minces, qui n'auront aucun souci de poids, mais par contre qui vont avoir cette fameuse graisse abdominale dont je parle, parce qu'il y a des règlements hormonaux. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. Ce qu'on sait, c'est que la situation hormonale détermine effectivement l'endroit où l'endroit dans le corps où les graisses vont être stockées. Alors, par exemple, vous dire que les oestrogènes, la progestérone tendent à empêcher plutôt l'apparition de la graisse abdominale et que, par contre, le cortisol, c'est une hormone qui est associée au stress et ça va favoriser la prise de graisse abdominale. D'accord. C'est pour ça que je vais revenir un petit peu sur ce qu'est ce cortisol. Toujours est-il, dire aussi aux auditeurs qu'on peut très facilement mesurer le tour de taille chez la femme, là, en passant juste au niveau du nombril, et qu'on considère qu'au-dessus de 89 cm, effectivement, là, on considère qu'il peut y avoir de la graisse qui peut avoir des répercussions sur la santé. Donc, on prend un mètre, on prend toujours dans les mêmes conditions, à la même heure de la journée, par exemple le matin à jeun, et on regarde. Tour de taille.
Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
Aujourd'hui, de quoi vas-tu donc nous chafouiner les oreilles ?
Nous allons parler aujourd'hui d'un remède très bon marché à avoir dans sa pharmacie, c'est le chlorure de magnésium.
Ah, c'est un peu comme l'argent colloïdal dont tu nous avais...
Non, là, non, quand j'ai dit bon marché, c'est moins de 2 euros le sachet.
Ah oui, oh la dingue. Ouais,
oui,
et
oui.
C'est bon pour... Bon, bah, tu vas nous le dire en fait, mais je veux savoir.
Ça y est, hein, une nouvelle expérience.
Le chlorure de magnésium.
Oui, qu'on appelle aussi le nigari, c'est le nom japonais, qui veut dire amer, parce que effectivement, même si c'est un remède très très efficace, c'est franchement absolument dégueulasse à boire, faut le savoir, faut pincer le nez.
C'est un peu comme le bicarbonate.
Non, là c'est.
C'est pas cher et puis ça peut
avoir
des effets.
Ah oui, d'accord. Effets, oui, non, je croyais que t'étais resté sur le goût.
Non. Bah le bicarbonate c'est pas très bon non plus, faut admettre.
Non, mais enfin ça a rien à voir.
Rien
à voir. Tu en feras l'expérience.
Expérience chimique.
Expérience chimique, ouais. Puisque tu es dedans en ce moment, c'est parfait.
C'est ça.
Donc, les seules précautions à prendre, et qui ne sont pas négligeables en ce qui concerne le chlorure de magnésium, c'est si on est en insuffisance rénale, ou si on a un rein un petit peu faible, et puis si on a de la tension, une tension élevée.
Comment on sait qu'on est en insuffisance rénale? Est-ce qu'il y a des signes particuliers?
Les gens qui sont en insuffisance rénale, ils le savent. Quand je parle d'une insuffisance rénale, c'est des gens qui sont traités, quoi. Soit en dialyse ou voilà.
Mais il y a des indicateurs pour nous par rapport aux urines, par rapport à voilà,
sûrement,
quelque chose.
Oui, mais ça c'est quelque chose que, enfin, c'est du domaine médical.
D'accord. Ok.
Et puis les gens qui ont des graves problèmes au cœur. Donc là, il faut faire attention avec le chlorure de magnésium, sinon c'est bon pour tout le monde.
D'accord. On ne sait toujours pas à quoi ça sert. Hein, mais...
Ben non, mais suspense,
jeu de
précautions. Voilà, et ensuite. Alors, qu'est-ce que c'est?
Un petit point historique aujourd'hui ou pas du tout?
Non. Bah, si tu veux, allez. Allez. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale.
Ouais, j'adore, génial. Tu plantes vachement bien le décor.
Et puis, donc là, évidemment, beaucoup d'urgences à traiter, beaucoup d'infections, malheureusement, et puis des antiseptiques pas toujours efficaces ou alors qui font des dégâts. Et là, c'est le docteur Pierre Delbé ou Delbré, ou je sais plus comment il s'appelait, enfin, un docteur qui décide, en fait, d'utiliser le chlorure de magnésium pour nettoyer les plaies et pour aussi renforcer l'immunité de ses patients.
Le chlorure de magnésium qui était utilisé pour quoi d'autres à l'époque?
Écoute, je ne sais rien parce que j'ai creusé la question, ils ne te disaient pas ni... Alors je pense qu'ils le connaissaient avant, ça devait être un remède comme ça, mais que lui a remis un peu au goût du jour.
Toutes les chroniques de Delphine sur le cfmradio.fr, rubrique Bien-être au bio, nature et vie.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM.
Has anybody seen Maori? Has anybody seen Sam Lowry?
These be seven curses on each judge so cruel. These be seven curses on each judge so cruel. These be seven curses on each judge so cruel.
River band, answer my friend.
These be seven curses on each judge so cruel.
Assuredly, I say to you,
that one doctor cannot say that. That two eyes cannot see him. And that three healers cannot heal him. That one doctor cannot say that. That two eyes cannot see him, and the three healers cannot heal him.
Assuredly, I say to you,
that four ears cannot hear him. That four ears cannot hear him. That five walls cannot hide him. That five walls cannot hide him.
Assuredly, I say to you,
that six diggers cannot bury him. And that seven death should never kill him. That six diggers cannot bury him. And that seven death should never kill him. That six diggers cannot bury him. And that seven death should never kill him.
Inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. Assuredly, I say to you,
these be seven curses on each judge so cruel. These be seven curses on each judge so cruel. These be seven curses on each judge so cruel.
These be seven curses on you. CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.
Ne vous inquiétez pas, ça repart.
Avec le récapitulatif du MAG de ce mardi.
Les haut-parleurs.
Salut Olaf.
Salut Max.
Comment vas-tu, patron intimidé par la radio?
Super intimidé.
Ah ouais. Bah alors, comment t'as découvert les haut-parleurs, toi?
En passant un jeudi pour manger, quoi.
Pour manger, oui. On y mange aux haut-parleurs, on y mange plutôt pas mal. Et du coup, c'est toi qui nous prépareras les repas à l'avenir?
Non, normalement, non.
Normalement, non.
Non,
tu nous aideras à préparer les repas.
Juste alors. Les crêpes le samedi. Et
les galettes.
Les galettes, sacrilège.
Ah, oui, voilà.
Crêpes au blé noir.
J'ai vécu en Bretagne aussi un peu, du coup, j'aurais dû le savoir. Mais ouais, je ferai les galettes et je donnerai des coups de main pour faire les menus.
D'accord, et organiser tout ce petit beau monde au haut-parleur.
Voilà.
Eh oui, donc tu es notre nouveau salarié. Tu peux nous parler un petit peu de toi, savoir d'où tu viens, parce qu'on se connaît, parce qu'on se connaissait à côté des haut-parleurs. Et tu es dans l'assaut bénévole depuis une bonne année, quoi. Et vas-y, je te laisse.
Et puis, moi, j'ai une question,
Nathalie,
une question super indiscrète. Olaf, ça, c'est les pays du Nord, c'est ça?
Ouais. C'est un nom norvégien, oui.
Norvégien, d'accord. Donc, tu as des origines norvégiennes?
Non.
Oh, flûte. Viking.
Je suis moitié hollandais, moitié irlandais.
Ah, oh, oui, bah, c'est quand même le Nord. Hein.
C'est un peu nordique,
oui. Ouais, Pays-Bas, c'est le Nord, ouais, d'accord. Ok.
Et Villefranchois?
Presque. 120 ça. 120 ça. 120 ça en ce moment.
C'est pas si loin.
C'est pas très loin, non. Et moi je suis né en France et j'ai habité en France jusqu'à mes 13 ans. Et après j'ai vécu 20 ans aux Pays-Bas.
Ah oui, d'accord.
Et je suis revenu en 2009.
D'accord.
Donc t'es polyglotte.
Polyglotte.
Tu parles super bien anglais.
Super bien
ce anglais. Ce qui est haut-parleur est quelquefois utile. Hein.
Bon, ah oui.
Ça. Genre
oui.
Polyglotte, c'est genre bilingue en fait.
Oui, ou plusieurs
langues. Trilingue.
Ou trilingue, d'accord. Polyglotte, c'est plusieurs. D'accord.
Ouais.
Ok. Merci.
Et donc tu vas être aux commandes un petit peu, parce que maintenant c'est la particularité des haut-parleurs, c'est qu'il n'y a qu'un salarié. Tu vas être un peu aux commandes du bateau, un peu tout seul, mais accompagné quand même par le CA. Et ton gros boulot, ce sera beaucoup la gestion des bénévoles et des rouages un petit peu du fonctionnement du bar, quoi.
Oui, on en avait parlé un peu avec Jules. On passe donc de 2 salariés. Contrat aidé, hein, on avait parlé de ce problème-là, à un salarié pas aidé, c'est ça?
Ben oui, financé directement par les...
Pas aidé le pauvre.
Dire qu'au lâche, il n'est pas aidé, moi je trouve ça pas très gentil.
Ouais, non, c'est...
Boris Cortijos, bonjour Boris.
Bonjour.
Pas inconnu de nos services radiophoniques, animateur, et il fut un temps de l'émission Sur le Grill, et puis toujours au cercle avicole du Barouergue et du Ségala, d'ailleurs président de ce cercle qui s'occupe de tout ce qu'on trouve dans la basse-cour. Des lapins, des poules, des pigeons, des tourterelles que l'on retrouvera ce week-end à la salle des fêtes de Trespierre à l'occasion de cette exposition annuelle. Pas l'année dernière, faute de grippe aviaire.
Pas l'année dernière et ni l'année d'avant, hein, puisque nous venons de subir 2 crises de la grippe aviaire, donc suffisamment sévères dans le département pour annuler notre exposition. Et donc c'est avec une grande joie hein, que l'équipe du CABRS, je pense, hein, va être en capacité de pouvoir enfin réorganiser donc cette rencontre nationale. Ici à Villefranche, on va accueillir donc 932 cages de 16 départements différents, hein. Des pigeons, 450 pigeons, 250 lapins, 150 coqs et poules, des tourterelles, quelques faisans, des canards, hein, des palmipèdes, des oies. Voilà un peu toute la basse cour telle qu'on peut l'imaginer.
Alors avec des spécimens mais extraordinaires, hein, c'est pas ceux qu'on croise le dimanche en balade. Et puis des noms aussi, il y a de la poésie hein, dans tout ça.
C'est vrai. Alors notre passion, c'est avant tout une passion. Elle est importante parce que, outre le fait que nous sommes des éleveurs, on participe au maintien de la biodiversité. Parce que nous sommes donc des sélectionneurs de races, hein, et nous produisons donc des géniteurs. Mais souvent, nous perpétuons de vieilles races que nos grands-pères, nos aïeux nous ont cédées, laissées, et en particulier des races locales, hein, je vais en citer quelques-unes, comme la poule de Caussade, le pigeon de Montauban, le dindon du Gers, l'oie de Toulouse, par exemple.
Sélectionné pour sa chair, parce qu'il est pondeuse, voilà. Parce qu'il est couveuse, parce que...
Alors, souvent, autrefois, c'était plutôt elles étaient sélectionnées parce que souvent elles étaient mixtes, c'est-à-dire qu'elles étaient capables de couver, de pondre, de produire de la chair. Et aujourd'hui, ces races-là, la plupart ont disparu parce que sur le plan, je dirais, productivité économique, elles ne correspondent plus au schéma d'industrialisation de la production animale, malheureusement, quoi.
Coq à l'âne.
On est déjà mercredi dans le récapitulatif de la semaine.
Semaine occitane du Villefranchois avec en studio aujourd'hui Thierry Hetz et Christian Sépulcre pour nous en parler. Messieurs, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonne nado. Aujourd'hui en studio pour nous parler de cette édition Semaine Occitane qui débute traditionnellement avec la dictée. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ? L'année dernière, c'était la dictée à trous.
Alors donc là, on a laissé tomber les trous là, cette année.
Ça n'a pas eu un franc succès l'année dernière ?
Finalement, c'était un petit peu compliqué. Alors ce qu'on a essayé, ce qu'on va faire là. Donc déjà au niveau du texte, c'est le 100e anniversaire de la mort de Justin Bessou, donc qui était un écrivain de Saint-Salvador. Mm-hmm. Et donc la dictée se fera à Saint-Salvador. C'est pas un hasard non plus, c'est pour marquer un peu cette date. Et donc on part sur un texte de Justin Bessou, et puis on aura également un texte très très simple qui permettra aux grands débutants qui ne savent pas trop comment que ça fonctionne, enfin, pour écrire l'occitan, de venir goûter, de venir tester un petit peu et s'essayer à la langue. Et donc ça sera plus... Donc alors voilà, il y a la dictée vraiment pour ceux qui connaissent, et puis on aura un texte pour ceux qui veulent découvrir, donc il y aura pour le plaisir.
Un instant de partage.
Voilà, hein, puisque c'est d'abord, ça c'est l'idée force, hein, parce que dictée, ça, c'est toujours un mot
qui fait peur encore aujourd'hui.
Qui a fait peur à des générations d'écoliers, et moi j'en fais partie, mais c'est plus l'occasion d'une rencontre intergénérationnelle, puisqu'on a les enfants des écoles bilingues qui viennent, il y a des anciens ou des gens qui participent au cours du soir. Voilà, c'est ce moment de rencontre et de partage. C'est avant tout, c'est dans un esprit de fête.
Cette dictée qui est donnée là dans le cadre des semaines occitanes du Villefranchois, mais également dans toute l'Occitanie, hein, quasiment au même moment, je crois savoir,
voilà,
c'est
oui,
la journée dictée.
Oui, ça dépasse même donc les frontières même de l'Occitanie, parce qu'elle se fait à Barcelone. Elle se fait de l'autre côté des Alpes, donc dans la partie italienne de l'Occitanie. Et voilà. Et puis nos amis catalans, parce qu'il y a des cercles occitans en Catalogne, donc avec qui on a des relations assez proches. Et donc il y a aussi une dictée qui se fait, et peut-être même à Valence, je crois aussi.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM.
La ville de Marseille, ben si 13 000 ans de glorie.
CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.
On ne finit pas les phrases. Hein.
Jeudi, et je disais hier aussi, dans le mag, on entendait ceci.
Le Villefranchois, l'info du Quercy et du Rouergue.
On commence aujourd'hui avec le dossier chaud bouillant de la semaine.
Un dossier que nous consacrons, effectivement un dossier qui fait un peu polémique, hein, à savoir la vaccination infantile rendue obligatoire pour 11 pathologies, 11 maladies. Donc ça c'est depuis le 1er janvier, hein, une loi donc a fixé cette mise en place qui pose certains problèmes, hein, notamment parce qu'il y a des anti-vaccins dans notre pays qui considèrent que vacciner n'est pas un acte anodin et qu'il peut éventuellement être dangereux dans une certaine mesure. Donc il y a la question de la santé publique d'un côté, et puis la liberté qu'auraient les parents ou les individus de se faire vacciner ou pas. Voilà, donc ça c'est un dossier que nous traitons sous l'angle informatif. Hein. On explique exactement de quoi il s'agit, quels sont les vaccins concernés, pourquoi les pouvoirs publics ont-ils décidé de rendre obligatoire ces 11 vaccins qui représentent à peu près une dizaine d'injections réparties sur 2 ans, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a des vaccins qui sont groupés, hein, par exemple rougeole, oreillon et rubéole, c'est un seul vaccin avec 2 rappels, voilà.
Le vaccin cocktail.
DT polio, c'est pareil. Voilà, on a des choses qui ont été dites et qui sont fausses, et on essaie de rétablir la vérité sur la base des faits scientifiques. Voilà.
L'hépatite B.
Alors l'hépatite B, ce n'est pas un vaccin qui, selon nous, pose problème dans notre pays. Hein. L'hépatite B, c'est pas un élément qui déchaîne des épidémies. Effectivement, le retrouver aujourd'hui comme un vaccin obligatoire, c'est parmi les questions que l'on peut se poser.
Bon, chez les tout petits, notamment, puisque tout petit, on s'intéresse au principe de transmission.
Il se trouve que la transmission de certaines maladies aujourd'hui semble ressurgir, alors qu'on croyait que c'était terminé. C'est, je dirais, une mesure, je pense, préventive, sur laquelle eh bien on peut discuter de l'utilité ou pas. La vaccination, quelle qu'elle soit, c'est pas un acte anodin, hein, de se faire injecter dans le corps une substance. On sait que notamment les adjuvants pour les vaccins peuvent poser problème. C'est le cas notamment
de l'aluminium.
Un certain nombre de choses. Alors justement, par rapport à l'aluminium, là aussi, on rétablit des faits. Effectivement, il y a une certaine dangerosité, mais c'est à mettre au regard des millions de personnes qui peuvent être immunisées contre des pathologies graves par le biais de la vaccination.
Allez, vous venez nous rejoindre. Reportage aujourd'hui en compagnie de Jean-Michel Malzac, boucher, charcutier, traiteur installé au 12 rue Montlozer. Comment s'organise votre journée? Alors, il y a l'activité pratique et puis il y a la gestion de l'entreprise. C'est quoi une journée à la boucherie?
Une journée à la boucherie, on n'est pas tout le temps, mais assez souvent dans du répétitif au niveau de l'exposition des produits. Donc dès le matin, c'est monter notre étalage. Et après, bien sûr, c'est de la découpe, car on reçoit que des carcasses entières, donc découpe des animaux et préparation des viandes. Donc ça tous les jours, avec bien sûr une grosse journée qui est le jeudi, hein, et puis après le jour du marché, et après le samedi qui est aussi une grosse journée. Après, si vous voulez, ça évolue par rapport aux saisons, bien évidemment. En sachant que maintenant, janvier, février, mars, pour nous, commercialement, c'est la saison la plus creuse. On a passé les fêtes, on est, voilà, hein. Le temps est maussade, on n'a pas trop envie. Nous sommes conserveurs. Donc, c'est à cette période-là que nous faisons nos conserves pour meubler, bien sûr, des fois, des journées qui sont beaucoup plus tranquilles commercialement. Donc, c'est pâté, foie gras, jambonneau, confit de canard. Donc, si vous voulez, même si l'activité commerciale n'est pas au maximum, l'activité production, elle, par contre, elle est souvent au maximum dans ces périodes-là. Donc, ça, c'est une gestion sur l'année. On sait très bien, maintenant, depuis 20 ans, qu'il y a des mois forts, des mois moins forts, qui sont souvent liés aussi avec les périodes de vacances scolaires. Bon, bien sûr, l'été, les vacances de Pâques, les vacances de Noël, bien sûr, avec la grosse activité. Donc, voilà, on est lié avec un peu l'année civile, si vous voulez, qui se déroule. En gros, c'est ça.
C'est quoi le produit star de la boucherie charcuterie traiteur Jean-Michel Malzac?
Alors, en fait, on
c'est
est
que des produits stars.
Non, on a des produits qui se distinguent. Bon, évidemment, on a une gamme de conserves artisanales qui a sa réputation parce qu'on a des touristes qui viennent de toute la France et on fait des envois dans toute la France aussi. Effectivement, depuis maintenant les années 2012-13 et à partir de 2014 vraiment, c'est le saumon fumé. Alors, ça n'a rien à voir avec la boucherie, on est plus dans du traiteur. Et le saumon fumé, qu'on m'a appris à faire par un collègue à moi d'Alternay-Garonne, c'est beaucoup développé. C'est grâce à mes clients que maintenant on a vraiment le produit fétiche, c'est le saumon fumé, entre autres, bien sûr, parce qu'on a aussi tout ce qui vient de boucherie, charcuterie, plats cuisinés. Mais le saumon fumé, franchement, mes clients m'honorent avec ça.
Ah, c'est la fin.
Pas de fin, pas de commencement. Ni commencement ni fin, et c'est parce que je voulais pas qu'il y ait de fin.
CFM, le mag, tous les jours,
12h, 12h30,
la vie du Villefranchois.